Soyez les bienvenus. Je vous invite à ouvrir avec moi dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Nous lirons une histoire de l'Écriture qui fait partie des histoires les plus connues. Voilà. Mais je crois que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est celui qui a inspiré les auteurs, il est celui qui est capable de se révéler encore. Alléluia. Luc chapitre 10, nous lirons à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, le rouèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Un sacrificateur qui, fortuitement ou par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, et il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers ou 2 pièces d'argent, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui ou prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit, « Va et toi, fais de même. » Il y a donc ici un docteur de la loi qui va poser 2 questions. Nous allons plus particulièrement nous attarder sur cette première. La première question, c'est « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Sa deuxième question, c'est « Qui est mon prochain ?» Voilà. Si le Seigneur le permet, nous traiterons cela mardi soir. Mais aujourd'hui, on va nous attarder sur cette première question. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus va lui rappeler, va lui poser la question, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Et il va donc citer ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Jésus dira ailleurs dans les évangiles que de ces 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain dépendent la loi et les prophètes. Voilà. Donc il dit, fais cela et tu vivras. Le Seigneur rappelle aussi ainsi une parole de l'Écriture, hein, que celui qui observe la loi et qui pratique la loi, en pratiquant cela, il vivra. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'en fait ici, le docteur de la loi s'adresse à celui qui a donné la loi. Hein? C'est notre Seigneur qui est l'auteur de la loi. Voilà. Il est l'auteur de la loi, mais il est aussi l'accomplissement de la loi. Et il nous a donné également, nous ne sommes plus sous le coup de la loi, puisqu'il a accompli la loi, nous verrons. Mais nous sommes dans ce temps où le Seigneur dira lui-même qu'il est venu pour ouvrir un temps de grâce. Alléluia. La grâce, c'est quelque chose qui n'est pas mérité, mais qui nous est accordé, gratuitement. Hein? Voilà. Et je voudrais simplement, cet après-midi, si on le peut, dire que je ne sais pas quelle était vraiment l'intention du docteur de la loi, hein, mais c'est vrai que quand on vient au contact du Seigneur, eh bien, le Seigneur qui nous connaît nous amène à notre vraie réalité. Voilà. Et je crois que le Seigneur, qui est ici présent parmi nous, nous l'avons chanté tout à l'heure, il connaît nos problèmes, il connaît nos soucis, car Dieu nous aime. Hein? Voilà. Et non seulement il connaît, mais il veut agir et intervenir dans la mesure où nous faisons appel à lui. Et je voudrais vraiment nous amener au contact de ce Seigneur et nous amener à faire agir notre foi dans la parole du Seigneur. Hein? Et il est vrai qu'ici, certainement le docteur de la loi, c'est un enseignant. Donc, sur le prochain, c'est certainement un sujet sur lequel on peut débattre dans un enseignement. Et la parole, on peut l'ouvrir pour en discuter. Pour les religieux, nous avons vu ici le sacrificateur, le lévite. C'est un sujet à problème qu'il faut éviter. Voyez, ils sont descendus par le même chemin, mais ils ont vu le problème, mais ils l'évitent. Hein? Pour l'aubergiste, le prochain, c'est un client potentiel. Voilà. Mais je voudrais dire que pour le Seigneur, c'est un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, bref, un être humain qui est dans le besoin, qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être secouru, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin qu'on lui porte de l'intérêt. Voilà. Le propre de l'homme, c'est que nous avons besoin d'être aimé. Nous avons besoin qu'on nous porte de l'intérêt. Quand on ne nous porte pas de l'intérêt, c'est comme si on n'existe pas. Parce qu'on existe, c'est on existe par rapport aux autres. Et nous avons vu ici que il y a un homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. Voilà. On va s'attarder un petit peu sur le parcours de cet homme parce que je crois qu'il est rempli d'enseignements qui peuvent nous amener à comprendre notre réalité. Et réaliser ainsi que lorsque le Seigneur va nous rappeler les écrits d'Ésaïe le prophète dans Luc au chapitre 4 où il dit « J'ai reçu l'onction pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs blessés, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour délivrer les opprimés, pour ouvrir un temps de grâce. C'est vraiment la mission du Seigneur et nous savons que lorsque une mission est confiée, c'est parce que cette mission correspond à un besoin. Lorsqu'on fait un sauvetage en mer, eh bien, même si la mission elle est la même, celle de sauver, on ne s'équipe pas de la même manière pour aller sauver en mer, comme pour aller sauver en montagne, ou aller sauver quelqu'un qui est allé faire du spéléo, etc. C'est à l'équipement de la personne qu'on peut voir, comprendre quel est le besoin. Lorsqu'il y a une catastrophe qui arrive dans un pays, il y a les autres pays qui se mobilisent pour venir au secours de ce pays qui est dans le besoin, mais ils vont se renseigner d'abord pour savoir quels sont les véritables besoins pour que lorsqu'ils interviennent, leur intervention puisse correspondre aux besoins. Et si la parole de Dieu nous dit que la mission du Seigneur est d'apporter une bonne nouvelle, c'est parce que nous avons besoin de cette bonne nouvelle. Et il dira lui-même à la fin de sa vie terrestre aux apôtres, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. » Il nous confie la même mission. Il est venu commencer cette mission et il nous donne comme mission de continuer celle-là. C'est pour cela qu'on est là cet après-midi. On ne fait que continuer une mission que le Seigneur a commencée. Et je crois que le Seigneur est fidèle pour accompagner tous ceux qui s'engagent dans cette mission. Alléluia. Et confirmer sa parole. Et la Bible nous dit qu'après cela, les disciples s'en allèrent prêcher la parole et le Seigneur confirmait sa parole par les prodiges et les miracles. Je crois que nous sommes encore au temps où le Seigneur va agir parce qu'il est toujours vivant, il n'a pas changé, il demeure le même. Et je voudrais cet après-midi vous convier, nous convier ensemble à faire cet acte de foi que le Seigneur peut accomplir dans notre vie propre ce qu'il a accompli et que nous lisons dans les évangiles et entre autres, ce que nous allons lire concernant, enfin, ce que nous avons lu concernant cet homme. Je voudrais que nous regardions un peu le parcours de cet homme. La Bible nous dit qu'il est descendu de Jérusalem à Jéricho. Le verbe descendre a aussi la signification de tomber. Donc, on pourrait dire qu'un homme est tombé de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, ça nous parle de la cité de la paix. Ça nous parle de la présence de Dieu. Que lorsqu'on quitte la présence de Dieu, on est en train de tomber et on ne sait pas où on va se retrouver. Voilà. Et ça raconte également l'histoire de l'humanité. Que l'homme était bien dans une bonne entente avec Dieu dans le jardin que Dieu a préparé pour lui. Dieu a tout fait, il a mis un environnement qu'il fallait pour lui, pour sa sécurité, pour son bien, pour son manger, etc., etc. Mais l'homme a choisi délibérément de faire autrement. Et ça a amené l'homme à chuter de la présence de Dieu, à s'éloigner de Dieu. Nous allons voir ici également que il n'y a pas qu'un homme qui est tombé de Jérusalem à Jéricho. Il y a également ici un sacrificateur et il y a également un lévite. Ça veut dire que, frères et sœurs, nous qui sommes ici engagés avec Christ, c'est un danger qui nous guette. Nous pouvons tomber de Jérusalem à Jéricho. Nous voyons, nous avons vu, nous lisons les Écritures et dans l'histoire des deux disciples d'Emmaüs, nous avons vu, nous avons lu, nous connaissons que alors qu'à Jérusalem, il y a la résurrection qui se fait, il y a le Seigneur qui apparaît à des dizaines de témoins, deux disciples quittent Jérusalem pour Emmaüs. Dieu merci, parce que le Seigneur a vu ses disciples et je crois qu'il nous voit aussi en tant que ses enfants, si nous sommes en train de nous éloigner, et il va venir sur le chemin pour interpeller ses disciples afin qu'ils retournent à Jérusalem. C'est à Jérusalem, c'est dans la présence de Dieu que l'enfant de Dieu est en sécurité. C'est dans la communion avec Dieu que nous sommes en sécurité. Quel est, j'allais dire, votre degré de communion avec Dieu, mes frères et sœurs? Ça, c'est une bonne question à chacun de répondre, mais si nous voyons que nous sommes en danger, je voudrais vous interpeller pour dire que c'est maintenant peut-être le moment de se ressaisir. Parce qu'à la fin de ce texte, lorsque cet homme a été laissé, la Bible nous dit qu'il a été laissé à demi-mort. Voyez? Jéricho, c'est une ville prospère. C'est une ville où il fait bon vivre. C'est une ville balnéaire, si on peut dire comme ça. On y va en villégiature. Le roi Hérode a construit, une seconde résidence, voilà, merci, certainement pour l'hiver, parce que quand c'est l'hiver, il fait froid à Jérusalem, mais quand on descend à Jéricho, il fait bon, voilà. L'agriculture, eh bien, ça pousse bien, il y a des sources d'eau qui sont essentielles pour la vie de la cité, il y a les roses de Jéricho qui sont connus, qui dégagent un parfum inégalé. Mais Jéricho, il faut dire aussi, c'est une ville fortifiée. Et il a fallu à Josué de vaincre cette ville avant d'entrer dans Canaan. Et s'il est vrai que dans l'histoire de la conquête de Canaan, Jéricho a été détruite, il est aussi vrai qu'il y a des citadelles dans lesquelles l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il nous tient, il nous tient prisonniers. Et il nous conditionne à rester dans cette vie de prisonnier. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu parce que nos yeux ont commencé à se tourner vers le monde. Et je crois que c'est ici, dernièrement, que j'ai parlé de Démas, qui est un collaborateur de Paul et qui a abandonné Paul par amour pour le monde. Comment quelqu'un qui a été appelé au ministère, collaborateur de Paul, dont nous lisons les écrits, a-t-il pu abandonner? Parce que ses regards se sont portés vers le monde. Et le monde, lorsque nous voyons les critères de Jéricho, c'est exactement ça. C'est les richesses du monde et ses attraits. Et dans le mot, il dit « il tomba au milieu des brigands ». Alors que certainement cet homme, il allait pour passer des vacances, il a économisé pendant tout un temps, etc. Je ne sais pas. On peut imaginer plein de choses. Eh bien, il a fait des mauvaises rencontres. Dans ce verbe tomber, il y a aussi la notion de rencontre. Il y a aussi cette notion d'être exposé sans défense. Il y a aussi cette notion d'être tombé dans un milieu qui est néfaste. Il y a aussi cette notion de s'échouer. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé, j'ai entendu à la radio qu'un bateau s'est échoué dans la réserve en Corse. Voilà. Mais est-ce que nous, notre barque, où est-elle? Elle n'est pas des fois échouée sur un banc de sable qu'on n'a pas vu? Je vais vous raconter une petite histoire drôle pour détendre un peu, parce que je vois que vous êtes... Un jour, nous sommes allés à la pêche avec un frère. Alors, nous sommes allés à la pêche de nuit. Et puis, lorsqu'on est rentré de la pêche n'a pas été tellement bonne. Moi, je suis devant le bateau, je tiens un projecteur pour éclairer, pour voir s'il n'y a pas d'obstacle, etc. Et lui, il est aux commandes du moteur. Et... on était à fond parce que lui, il connaissait le coin. Malheureusement, c'était marée haute, mais pas assez haute pour qu'on passe un banc de sable qui était à fleur d'eau. Et le bateau, il s'est échoué sur le banc de sable et celui qui tient le projecteur, il a fait le grand plongeon. Voilà, bon, ça a été laborieux pour sortir de là, mais on en a plutôt ri qu'autre chose. Mais il y a des situations où on n'en rit pas. Voyez, cet homme est descendu de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé entre les mains des brigands. Et qu'ils l'ont dépouillé. Roué de coups. Je ne sais pas si ici on peut dire tabassé. Voilà. Tabassé. Ils l'ont battu. Ils l'ont laissé sans rien. Presque mort. Et ça, c'est le projet de l'ennemi. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler ou dérober, égorger, tuer. C'est son objectif. Et il arrive à se saisir de nous lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu. J'ai appris également dans l'histoire de ce bateau qui s'est échoué en Corse dans le milieu naturel là-bas, une réserve naturelle, que il y a un remorqueur qui va à son secours pour le sortir de là. Voilà. Parce que il ne peut pas s'en sortir seul. Et quand on tombe sous le coup de l'ennemi du péché, on ne peut pas s'en sortir seul. C'est une fortification. Au temps de Josué, il nous a dit que cette fortification, à l'approche de Josué et du peuple d'Israël, il s'est fermé sur tous les habitants dans le but que personne ne sort, mais que personne non plus n'entre, parce qu'il veut absolument faire obstacle, s'opposer à l'entrée du peuple de Dieu en Canaan. La suite, nous connaissons. La victoire est revenue à Josué parce que Dieu était avec lui et avec le peuple. Nous pouvons avoir la victoire, la même chose, si nous sommes tombés dans ses griffes, dans la mesure où nous crions au secours et nous cherchons le secours qui nous vient de Dieu. J'ai entendu ce témoignage concernant le Titanic que... Quel est le slogan du Titanic d'ailleurs? Même Dieu ne peut pas le couler. Eh bien, l'impensable est arrivé. Voyez? Et lorsqu'ils ont cogné l'iceberg, Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire une course de vitesse et mettre un temps record alors qu'ils ont entendu qu'il y a du danger. Eh bien, tout le monde s'est pris des glaces et jeté dessus parce que pour eux, on leur a bourré le crâne qu'il ne peut pas couler. On riait, on rigolait. Mais quelques heures plus tard, on ne rigolait plus. Parce que le Titanic a sombré et beaucoup ont sombré avec lui. C'est pour dire que c'est maintenant le temps de Dieu. Ce n'est pas tout à l'heure ou demain. Il ne faut pas s'amuser avec le péché. Il ne faut pas s'amuser avec la présence de Dieu. Une vie superficielle, une vie artificielle de croyant. Non! Il y a du danger. Il y a un enjeu, c'est l'éternité. Et l'éternité, c'est maintenant qu'il faut préparer. Et cet homme, lorsqu'il est tombé, il a été dépouillé. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé tout ce qu'il avait. On lui a enlevé son essentiel. On a volé, dérobé, enlevé de force. On lui a enlevé ce qui est vital, légitime pour lui. Résultat, il est resté à demi-mort. Résultat, cet homme qui certainement descendait joyeux de Jérusalem à Jéricho s'est retrouvé complètement dénué de tout. Lorsque nous tombons entre les mains du péché et de l'adversaire de notre vie, il nous dépouille de tout. Et il fait en sorte que nous n'ayons pas la possibilité de nous relever. Voyez? Jésus va dire à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, comme le froment. » C'est-à-dire que quand on a criblé, on ne peut pas recoller. C'est impossible. Voyez? Humainement. Mais avec Dieu, tout est possible. Ainsi, nous voyons des hommes et des femmes qui sont dépouillés de la famille. Ils sont dépouillés de ceux qu'ils aiment. Ils sont dépouillés de leurs biens. Ils sont dépouillés de leur travail. Ils sont dépouillés du fruit de leur labeur. Ils sont dépouillés de leur entreprise. Dépouillés de la santé. Dépouillés de la notion d'avenir, de se projeter. Dépouillés même de leur personnalité. Quand on les voit, on dit « je ne les reconnais plus ». Pourtant, on était sur les bancs du lycée, ensemble. On se connaît bien, on était bien des amis, mais je ne le reconnais plus. Dépouillé de son identité, même de son éducation. Quand on quitte la cité de la paix, on est dépouillé de la paix. On n'est plus en paix. Et les frères et sœurs et amis, cela ne concerne pas simplement ceux qui sont dans nos rues, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de travail, etc. Il y a des gens qui ont tout, on pourrait dire, pour vivre, mais qui intérieurement sont dépouillés de tout. Et nous connaissons, il y a des exemples d'hommes, de femmes qui se sont donné la mort alors qu'ils ont tout ce qu'on pourrait penser pour être heureux. Avoir le bonheur. Parce que la vie véritable, c'est Jésus qui la donne. S'il y a l'objectif de l'ennemi, c'est de dépouiller, égorger, tuer, la Bible nous dit que Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Alléluia. Oui, cet après-midi, ce n'est pas avec un prédicateur que nous avons rendez-vous. C'est avec le Seigneur de la vie. Et je voudrais vraiment cet après-midi nous interpeller sur la nécessité que si nous sommes dans une mauvaise passe, c'est le moment. Et la Bible nous dit concernant cet homme que le Samaritain, lui, il s'est approché, il a pris soin de lui, il l'a soigné, et puis il l'a amené en sécurité dans une auberge. Et puis, il a payé pour lui, pour tous les soins, pour le séjour qu'il va faire, etc. Et il dira, prends soin de lui, s'il y a quelque chose en plus, eh bien, je te payerai quand je vais revenir. C'est aussi là une vérité de l'Écriture, de la parole de Dieu, que le Seigneur, il est venu. La Bible nous dit que vous avez été rachetés à grand prix. Et vous avez été rachetés de la malédiction, rachetés de toute iniquité, rachetés de la vaine manière de vivre. En gros, rachetés du péché, mais rachetés aussi du pouvoir et de l'autorité que l'ennemi il a sur votre vie. Et le Seigneur a payé le prix qu'il faut. Pour cela, lui, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est descendu vers les hommes comme un simple homme. Et on n'a pas pris égard à lui parce qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards qui correspondent à notre façon de voir. Cependant, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qu'il a portés. Et la Bible nous dit également que dans ses meurtrissures, nous avons la guérison de nos maladies. Cet après-midi, nous pouvons prier pour ceux qui sont malades, souffrant, dans le besoin, parce que Christ a tout accompli. À la croix, il s'écrira lui-même, « Tout est accompli. » Alléluia. Et la Bible nous parle en ce qui concerne le Samaritain, qu'il dit, « Rempli, il fut ému, rempli de compassion pour cet homme qui est blessé sur le bord de la route. » Et la Bible nous dit également que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Il est le Seigneur de la vie. Alléluia.